Merci Seigneur pour ces chants. Le Seigneur fait bien les choses et on a l'habitude. Alors on va dès à présent ouvrir nos Bibles dans Matthieu 9 et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Matthieu chapitre 9, verset 10. Matthieu chapitre 9, le verset 10. Il est question de Jésus. Et nous lisons ceci, « Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Car ce ne sont pas les justes que je suis venu appeler à la repentance, mais ce sont les pécheurs. Amen. Amen. Ce soir, je voudrais vous parler simplement d'un aspect de l'amour de Jésus pour les hommes, d'une façon que Jésus a d'aimer les hommes. Et cette façon-là, on la voit dans ce dernier verset, on la voit même avant. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, au verset 12, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Jésus se qualifie lui-même comme, il se compare, si vous voulez, à un médecin. Et on l'a chanté tout à l'heure. Ce grand médecin, si compatissant, peut guérir jusqu'aux maux extrêmes. Ce soir, on va approfondir ce thème-là. Pourquoi Jésus est le divin médecin? Pourquoi déjà dans nos vies, dans la vie des hommes, il y a besoin d'avoir un médecin? C'est une bonne question et la réponse, elle est dans la Bible. Sachez, et vous le savez peut-être déjà, vous qui connaissez le Seigneur, qu'il y a une maladie plus grave que les maladies cardiovasculaires. Vous savez que les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité en France. Il y a quelque chose de plus grave que ça. Plus grave que le cancer, plus grave que le sida, plus grave que Alzheimer, cette maladie dont la Bible nous parle, c'est le péché. Pourquoi est-ce qu'elle est plus grave que ces autres maladies? Parce que c'est une maladie qui touche tous les hommes. Tous les hommes sans exception. Alors que les autres maladies, il y a quelques personnes qui sont touchées. Et malheureusement, il y en a trop déjà. Mais cette maladie du péché, elle touche tous les hommes sans exception, car tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la grâce de Dieu et la gloire de Dieu. Elle est aussi mortelle, immanquablement mortelle. Heureusement que toutes les maladies que nous traversons peut-être parfois, elles ne nous mènent pas à la mort. Mais cette maladie-là, elle est plus grave que toutes les autres parce qu'elle conduit immanquablement à la mort si on ne se soigne pas. Et Dieu a créé l'homme pour qu'il soit en communion avec lui. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit en parfaite communion avec lui. Dieu a créé l'homme pour qu'il reçoive son amour. Dieu a créé le cœur de l'homme pour qu'il soit en parfaite phase avec l'amour de Dieu. Dieu a créé l'homme pour que Dieu soit au centre de sa vie. Et cette maladie, ce péché, empêche toutes ces choses-là. Empêche le fait que Dieu soit au centre. Empêche le fait que la communion avec Dieu soit possible. Empêche tout ce plan merveilleux prévu par Dieu à la base pour l'homme. Cette maladie dénature totalement ce que Dieu avait prévu pour l'homme. Cette maladie empêche l'homme d'être véritablement heureux. Ça, c'est le péché. Pourquoi? Et nous allons voir dans ce texte pourquoi. On peut distinguer les symptômes de la maladie sur les gens. Et quels sont ces symptômes? Et dans ce texte, nous avons vu deux catégories de personnes. Et il y en a qui viennent auprès de Jésus, et il y en a qui se tiennent un peu à l'écart et qui murmurent. Et c'est dans cette dernière catégorie de personnes qu'on va voir certains symptômes du péché. Premier symptôme, il est flagrant. L'orgueil et la propre justice. Au verset 11, il est dit, les pharisiens qui virent que donc Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie, ils virent cela et dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs. Pourquoi il se met au rang de ces pêcheurs-là? Pourquoi il va au contact de ces personnes? Nous, on est purs parce qu'on se tient à l'écart de ce genre de personnes. Nous, on est purs parce qu'on est juste devant Dieu parce qu'on se tient à l'écart de ces personnes-là. Les pharisiens, ils se tiennent à l'écart et ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont être purs. Ils se tiennent à l'écart de certaines personnes qu'ils considèrent, ils se permettent de juger certaines personnes, et ils se tiennent à l'écart de ces personnes-là, et ils pensent que ça va les rendre purs. Première erreur, leur propre justice. Le péché nous fait croire que nous sommes meilleurs que les autres. Le péché nous fait croire que nous valons mieux que l'autre qui est à côté de nous. Le péché nous fait croire que, à part nous, à part notre famille, il n'y a personne au monde qui vaut le coup d'être aimé, peut-être. Et si vous avez cette attitude dans le cœur, c'est un symptôme que vous êtes atteint du péché. C'est un symptôme, mais il y en a d'autres. Deuxième symptôme, je l'ai appelé comme ça, la perception faussée de Dieu. Quand il leur dit, au verset 13, « Allez et apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices ». Les pharisiens, ils connaissaient la loi sur le bout des doigts. Ils connaissaient les versets de la loi par cœur. Ils les récitaient, ils étaient capables d'en réciter des centaines et des centaines. Et pourtant, Jésus se permet de leur dire ça. Allez réviser vos cahiers là-bas. Et apprenez réellement ce que ça veut dire. Je prends plaisir dans la bonté. Je prends plaisir dans la miséricorde. Plus que dans les sacrifices, plus que dans les choses que vous pouvez apporter humaines, plus que dans votre intelligence sur la loi, plus que dans votre compréhension de ce que la loi dit. Ce dont je prends plaisir, c'est la mise en pratique de la loi. Et le fait que ces pharisiens pêchent, les symptômes qui nous montrent qu'ils pêchent, c'est qu'ils ont une vision de Dieu fausse, une vision de Dieu qui est lointain, Dieu qui ne va pas se mettre au rang justement des pécheurs, Dieu qui ne va pas se venir au contact de ces personnes qui ont besoin de lui. Ils ont cette vision-là du Dieu qui est lointain, du Dieu qui est indifférent au problème, le Dieu qui ne s'intéresse pas à l'homme, parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de la loi, parce qu'ils s'intéressent seulement à la loi de façon intelligente, alors qu'ils ne s'intéressent pas à Dieu avec leur cœur. Et ça, c'est un autre symptôme. Et je voudrais passer, parce qu'il y en a tellement des symptômes, mais quand on a un vide intérieur, quand on n'arrive pas à combler, qu'on essaie par toutes sortes de plaisirs, toutes sortes de moyens différents, et qu'on se rend compte finalement qu'au bout, ça mène à rien. Il y a toujours ce vide qui est là. Ça, c'est un symptôme. Et la seule personne qui va pouvoir combler ce vide, c'est celui qui a prévu à la base, celui qui a été prévu à la base pour le combler, c'est-à-dire Dieu. Autre symptôme, une conscience inerte. Imaginez cette personne. Cette personne qui roule dans son véhicule, dans son automobile, et puis tout à coup elle voit un voyant rouge qui s'allume en clignotant, avec un message « Attention, vite, arrêtez-vous !» Et cette personne, elle est en retard, elle n'a pas envie de s'arrêter. Alors elle va essayer de masquer ça, de prendre l'évangile qu'elle a dans la voiture, hop, on le met dessus, comme ça je ne le vois plus. Et puis ça continue quand même, elle arrive, avec les reflets, elle arrive à le voir que ça clignote. Cette personne en a marre, elle prend une clé qu'elle a dans la boîte à gants, et bam, bam, elle défonce le tableau de bord, hop, le clignotant s'arrête. Et elle continue sa route. Que penserez-vous de cette personne? Elle ne va pas arriver à bon port. Parce que normalement, quand c'est rouge, déjà c'est orange. Il faut vérifier dans le manuel si c'est important. Quand c'est rouge, il faut s'arrêter d'urgence. Mais des fois, on traite pareil notre conscience. Le péché fait que ça, on traite pareil notre conscience. Notre conscience, elle est là pour nous avertir. Attention, tu es en train de faire le mal. Rends-toi compte que tu es en train de faire le mal. Et nous, on lui dit non, mais c'est pas grave. Et on essaye de masquer ça par toutes sortes de moyens, toutes sortes d'astuces, toutes sortes de choses. Et à la fin, on détruit même notre conscience. On n'en tient plus compte. Et le fait d'avoir une conscience qui est inerte, qui ne réagit plus au mal. Des fois, on regarde la télé, on regarde des informations qui sont terribles. Et on est là, on est complètement indifférent. Ça ne nous touche plus du tout. Mais ça, c'est un symptôme du péché encore. Un symptôme qu'on est loin du cœur de Dieu. Parce que le cœur de Dieu face à l'injustice, le cœur de Dieu face à la peine, le cœur de Dieu face à la douleur, le cœur de Dieu face à des catastrophes, il pleure. Et si on est vraiment proche de Dieu, on va avoir ces mêmes sentiments qui vont venir en nous. Et le péché, lui, il rend notre conscience inerte, il rend notre conscience muette, il rend notre conscience paralysée. Ou alors, on va avoir cette conscience accusatrice, ces pensées de culpabilité qui vont revenir tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas réglé ce problème parce que le péché, il est comme ça. Alors que Dieu, lui, désire qu'on vive. Et il a toujours désiré qu'on vive dans la paix. Il a toujours désiré qu'on soit dans le bonheur comme on l'a chanté. C'est le désir de Dieu. Le bonheur malgré l'épreuve. Le bonheur malgré la maladie. Le bonheur malgré toutes ces choses-là. Mais tout ça, c'est des symptômes. Et si on a une de ces choses-là, et il y en a beaucoup d'autres, on peut se rendre compte qu'on est vraiment pécheur. Voilà pourquoi on a besoin que Jésus vienne justement purifier notre conscience. Que Jésus vienne nous donner sa paix. Jésus, c'est le divin médecin, et vous savez qu'aujourd'hui, pour être médecin, à une époque, c'était pas comme ça, il y a de longs siècles en arrière, mais aujourd'hui, il faut faire beaucoup d'études pour être médecin, je ne sais plus combien exactement, et si on veut même se spécialiser, il faut encore rajouter des études. Je crois que c'est au moins 9 ans d'études, il n'y a pas de médecin dans la salle qui peuvent me dire quoi que ce soit, non ? Bon, partons sur 9 ans, minimum. Ce qui fait qu'un médecin... il est reconnu, c'est qu'il va au bout de ses études, qu'il prête serment, etc., etc. Pourquoi nous pensons, en s'appuyant sur la parole de Dieu, que Jésus est le divin médecin, que c'est légitime que ça soit lui le divin médecin? Pourquoi nous pensons ces choses-là? Eh bien déjà, il nous est dit du ministère de Jésus qu'il parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Est-ce que ce n'est pas la bonne définition d'un médecin? Vous savez que le mot maladie, ça signifie, ça vient de latin, je crois, qui signifie quelque chose qui est en mauvais état. Quelque chose qui est en mauvais état. Et Jésus, lui, il guérit toute maladie, toute infirmité. Deuxième chose, il est spécialisé dans une guérison particulière. Et ça, c'est dans Luc au chapitre 4, verset 18, je le lis pour vous. Quand il a commencé son ministère, il n'a pas pu s'empêcher, parce que c'était quelque chose qui brûlait sur son cœur, de lire ses paroles, de s'approprier ses paroles d'Ésaïe, qui disait ça, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a, aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Ça, c'est la spécialité du Seigneur. Même s'il est tout puissant pour guérir toute maladie physique, toute infirmité, il est spécialisé et il est venu surtout sur la terre dans ce premier but-là de guérir les cœurs brisés, brisés par ce péché, brisés par cette maladie terrible. Imaginez cette personne. Cette personne à qui on donne un bloc de pierre. Cette personne-là, c'est un sculpteur. On imagine un sculpteur à qui on donne un bloc de granit comme ça, de 3 mètres de haut, et on lui dit, bon, mais allez-y, commencez à faire votre chef-d'œuvre. Et le sculpteur, il commence à taper, et alors de temps en temps, il prend des gros marteaux, après il prend des petits, enfin, il prend ses outils, il connaît parfaitement, à un moment donné, il polit la pierre pour la rendre, etc., etc. Et comme il est sculpteur, comme il a ce talent particulier, du bloc de pierre, il va en ressortir quelque chose de fabuleux. Il va pouvoir faire un guerrier éblouissant, il va pouvoir représenter une scène qui a, si on la regarde vite fait, on a l'impression que ça bouge. Maintenant, on prend le même bloc de pierre et on prend moi un sculpteur. Bon, je vous rassure, j'ai aucun talent dans la sculpture. Donc, oui, à la limite, écartez-vous plutôt. Parce que moi, je prends le même marteau, je prends les mêmes outils. En quelques coups, je vous fais un puzzle géant en 3D. C'est tout ce que je peux faire. Mais ça va rien donner. Parce que j'ai aucun talent là-dedans. Et l'image, elle est simple, mais c'est que Dieu, c'est le seul qui est capable de sculpter nos cœurs pour les amener à être des chefs-d'œuvre. Dieu, c'est le seul capable de faire de nos vies des chefs-d'œuvre. Des choses fabuleuses que jamais on n'aurait pu penser. Et nous, on essaye avec les outils qu'on trouve. On essaye des fois même avec certains versets, pour paraître religieux, à essayer nous-mêmes de former notre vie, de moduler notre vie. Et on se rend compte que ça ne marche pas. Et ce qui est terrible avec le péché, c'est qu'il est capable de casser ce cœur que Dieu nous a donné.
Et des fois, ce qu'on appelle les petits péchés, mais j'aime pas trop cette expression, mais on comprend ce que ça veut dire. Avec des petits péchés, on va tapoter notre cœur et ça va détacher des petits bouts, des petits morceaux de notre cœur. Et des fois, des gros péchés, ils vont briser nos cœurs en 1000 morceaux. Mais le résultat, il est le même à la fin. C'est que le péché, il détruit le cœur de l'homme. Et c'est le contraire de ce que Dieu veut. Jésus est le divin médecin, celui qui répare les cœurs brisés, celui qui est légitime de faire cela parce que, une dernière chose, et juste au verset 6 du même chapitre, il est dit ceci, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, au paralytique, qui donc il dit ça, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et quand on regarde le contexte, c'est Jésus qui est en train de demander aux pharisiens qu'est-ce qui est plus aisé de dire. Qu'est-ce qui est le plus aisé? Est-ce que c'est plus facile de demander, de pardonner les péchés ou de guérir quelqu'un? Qu'est-ce que vous auriez répondu, à votre avis? C'est plus facile, moi j'aurais répondu, puisque vous n'osez pas le dire, c'est plus facile de pardonner les péchés, puisque ça ne se voit pas. Tandis que guérir un malade, bon, mais là, on ne peut pas tricher. Guérir les péchés, on peut dire, oui, je guéris tes péchés, mais il n'y a rien qui se passe. Mais Jésus, lui, il a suivi leur logique, si vous voulez. Il a dit, bon, mais vous croyez que guérir les malades, c'est plus difficile? Ben, regardez. Pour vous prouver que le Fils de l'homme, sur la terre, il a le pouvoir de pardonner les péchés, ben, je vais guérir un malade. C'est dans cette logique-là. Et donc, il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Le gars, il a fait. Il nous a prouvé, c'est pour ça qu'il est légitime d'être le divin médecin, il nous a prouvé qu'il est celui qui guérit, celui qui pardonne les péchés, celui qui efface tout péché. Jésus a payé la dette. Et ça me fait penser à cette histoire, ça se passe en Inde, et il y avait une loi, si vous voulez, une loi qui interdisait les jeux de hasard, et il y avait deux jeunes hommes qui jouaient justement un de ces jeux de hasard, c'était avec des dés, et ils pariaient certaines sommes. Et comme ils ont été pris en flagrant délit, ils ont tous les deux été mis en prison. Et il fallait qu'ils payent 500 roupies. Alors je ne sais pas combien ça correspond, mais c'était une forte somme. 500 roupies. Et il y en a un qui était le fils d'un homme riche. Alors lui, il n'a pas eu de problème. Il n'a même pas eu le temps de passer une demi-heure dans le cachot. Son père, il est venu régler. Clac, allez, c'est bon. L'autre, c'était le fils d'une pauvre veuve. Une pauvre veuve. Et sa maman, quand elle est venue le voir... Et quand elle s'est rendue compte qu'il était en prison et qu'il devait 500 roupies à la loi, elle a commencé à chercher un travail et elle a trouvé qu'un travail dans une carrière où il y avait des grosses pierres lourdes et saillantes qu'il fallait transporter d'un endroit à un autre. Et elle a commencé à faire ce travail-là. Et au fur et à mesure que les jours passaient, au fur et à mesure que les pierres devenaient de plus en plus lourdes, alors que elles avaient le même poids, mais à cause de la fatigue, elle se blessait, le sang coulait de ses mains, et elle continuait, elle persévérait. Et quand le soir, elle allait voir son fils, lui, à travers les barreaux, il voyait qu'elle avait les mains meurtries. Il voyait qu'il y avait des taches de sang par-ci, par-là. Il lui disait, mais maman, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as aux mains? Et elle lui disait simplement... Mon fils, c'est pour toi. C'est pour le prix de ta libération que je fais ça. Et elle a continué encore jusqu'à atteindre la somme de 500 roupies. Et elle a pu aller à la prison, payer la dette. Et le fils a été libéré. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est que le jeune homme riche, il est revenu. Il a dit, allez, viens, on va s'y remettre. Viens, on va rejouer un petit coup là. Et le garçon, il a dit, non, c'est impossible que je me refasse. Parce que toi, c'est facile, c'est ton père qui est venu payer. Ça t'a rien coûté, ça n'a rien coûté quasiment à ton père. Mais moi, c'est le sang de ma mère ça a coûté. C'est sa fatigue, c'est sa persévérance pendant des jours et des jours. C'est impossible que je me remette dans ce jeu-là. Et quelle image ça nous donne? Parce que Jésus, vous avez tout de suite vu l'analogie avec le sacrifice de Jésus. Jésus qui a eu les mains percées. Pour nous, pour que nous puissions être en communion avec lui. Et comment ça nous porte à ne pas revenir à ce que nous avons vomi, comme le dit la parole de Dieu, à ne pas revenir en arrière, pas revenir à ces choses-là, mais à toujours aller de l'avant, à toujours compter sur ce Jésus, le divin médecin. Maintenant, si Jésus c'est le divin médecin, s'il y a une maladie, Il y a besoin d'un processus de guérison. On a besoin d'entendre le diagnostic médical du docteur. Verset 10, il est dit ceci, on va le relire. Jésus, comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait deux catégories de personnes qui étaient présentes à ce moment-là. Il y avait les pharisiens, qu'on a vu tout à l'heure, qui eux, ils nous parlent des symptômes du péché, parce qu'ils sont pécheurs. Et ces personnes-là qui sont déjà pécheurs, mais qui veulent aller, qui veulent guérir, qui veulent aller plus loin avec Dieu, ces personnes-là, elles ont une autre réaction face à Jésus. Qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Elles vont auprès du Seigneur. Elles vont près du docteur. Parce que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de se rendre compte qu'on est malade. Le tout, c'est d'aller voir le docteur. Le tout, c'est d'aller voir le bon docteur surtout. Et souvent, j'entends des gens qui, quand ils sont malades, avant de faire quoi que ce soit, ils vont sur Internet. Et ils essayent de se guérir par le docteur Internet. Mais ils pensent que dans un forum, ils vont trouver ce que des personnes, ils ont mis 9 ou 10 ans à apprendre. Alors peut-être on va trouver quelques symptômes qui coïncident, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la maladie qu'on a. Et souvent, nous, on essaie de se trouver nos propres docteurs, nos propres médecins. On essaie de se dépatouiller par nous-mêmes pour essayer d'être guéris. Alors que le véritable docteur, celui qui peut tout, celui qui guérit, celui qui est légitime dans sa fonction de divin médecin, c'est Jésus-Christ. C'est auprès de lui que nous avons besoin de venir. C'est auprès de lui que se trouve la guérison. Mon ami, ce soir, je veux te poser une question simplement. Qui est le médecin de ton âme ? À qui as-tu remis la santé de ton âme ? Peut-être que tu te dis, j'ai pas besoin d'avoir un docteur, c'est moi-même mon docteur. C'est une façon de penser. Mais sache que ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ont leur intelligence aveuglée par le prince de ce monde, par le diable. Et le diable, il est dit que c'est le malin, ou une définition plus exacte, c'est que celui qui nous veut du mal. Alors, choisir entre quelqu'un qui nous aime profondément et quelqu'un qui nous veut du mal, et il nous veut du mal, à quel point ? Enfin, le choix est vite fait, hein, en tout cas. Mais l'exemple, je vais le donner quand même, malgré tout. Mais pensez à une personne, pensez que vous confiez vos enfants que vous aimez le plus possible, à une personne que vous savez qu'elle est pédophile. Voyez l'exemple. Peut-être c'est choquant, peut-être. Mais c'est autant choquant de livrer son âme au diable. Non pas en lui vouant un culte ou en faisant des prières. Il y en a qui le font, malheureusement. Mais je ne parle pas de cette manière-là. Le fait simplement de ne pas croire en Dieu, ça nous place sous l'influence du diable. C'est une réalité que la Bible enseigne. Le fait de ne pas croire en Dieu, on est aveuglé dans notre intelligence, comme je disais. Et c'est la même image, la même chose que de placer nos enfants sous la garde d'un pédophile. C'est la même chose, parce qu'il a autant, voire plus de mauvaises intentions envers nous que le pédophile en aura envers nos enfants. Parce que je pense qu'on a une mauvaise idée de l'adversaire de nos âmes, et il est vraiment dans ce but-là. Mais ce n'est pas de lui que je veux parler ce soir. Verset 13, regardez ce qu'il faut faire dans le processus de guérison. Il est dit ceci, « Je ne suis pas appelé à venir appeler des justes, mais des pécheurs. » Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. La première étape pour être guéri, c'est d'accepter qu'on est malade. C'est d'accepter qu'on est malade, vous êtes d'accord ? Deuxième étape, c'est aller consulter le docteur. Et troisième étape, pour être guéri, c'est de prendre le remède du médecin, pas de prendre autre chose. Et le remède, c'est quoi ? Je voudrais être bien simple ce soir. Le remède, c'est simplement de croire à Jésus-Christ, de placer sa foi en Jésus-Christ. 1 Jean 1, verset 7 nous dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. » Nous devons croire,
placer notre foi en Jésus, croire à l'œuvre de la croix, croire au sang de Jésus versé pour nous, versé pour chacun d'entre nous. Et c'est en croyant, c'est en ayant la foi dans cette chose-là, que nous allons être purifiés de nos péchés, simplement. Comment être guéri? Comment notre cœur peut-il être guéri? Comment notre cœur, notre être tout entier peut-il être purifié du péché? En croyant en Jésus-Christ, en croyant en son sacrifice à la croix. Et la deuxième chose qu'on va faire, on va entretenir notre communion avec lui. Quand quelqu'un a été malade, et même par prévention d'une maladie quelconque, les docteurs conseillent, qu'est-ce qu'ils conseillent? Faire tous les jours une activité physique, au moins 30 minutes je crois, quelque chose comme ça. Tous les jours il faut que vous fassiez une activité physique, même si c'est une marche, du vélo, trouvez quelque chose à faire, mais faites-le. C'est quelque chose de simple et c'est quelque chose qui est bon pour la santé, c'est reconnu. Et bien spirituellement parlant c'est la même chose, on l'a lu d'ailleurs. Si nous marchons dans la lumière, il faut qu'on entretienne notre vie spirituelle. Il faut qu'on progresse, il faut qu'on marche, qu'on fasse de l'exercice spirituel afin que notre communion avec Dieu soit complète, afin que nous puissions parvenir à revenir à cette communion avec Dieu qui a été perdue par le péché. C'est le désir de Dieu. Dieu ne désire qu'une chose, avoir cette communion parfaite avec chacun d'entre nous. Dieu ne désire qu'une chose, avoir cette communion qui surpasse toute intelligence, qui va nous amener à faire sa volonté, qui va nous amener à dire les bonnes choses, qui va nous amener à avoir les bonnes attitudes, parce que nous serons en communion avec lui. C'est tout ce qui importe au Seigneur. Voilà pourquoi il nous a donné tout pour que le péché n'existe plus. Il nous a donné tout pour que nous puissions revenir à cette communion. Conclusion, on a deux choix. Soit on refuse le remède et on refuse de croire, et Jésus a dit ça. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si on refuse de croire, le résultat il est simple, c'est que le péché il va aller jusqu'au bout de ce pourquoi il est, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Mais dès l'instant où on reconnaît son péché, à l'inverse des pharisiens, eux ils voyaient le péché dans les autres. Mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient pécheurs les autres, c'est vrai. Mais ils avaient la bonne attitude d'aller vers Jésus. Ces pharisiens, ils se sont endurcis dans leur propre justice. Ils sont restés dans leur péché finalement. Et alors qu'ils se croyaient purs, qu'ils se croyaient près de Dieu, ils sont restés loin de Dieu. Et les gens qui étaient pécheurs et qui sont venus auprès de Dieu, et bien ceux-là qui ont reconnu qu'ils étaient pécheurs et qui ont reconnu leur besoin de venir dans la présence de Jésus, d'être touchés par Jésus, d'entendre une parole de Jésus, d'être transformés par le contact de Jésus, par cette communion avec lui, ben ceux-là, ils ont pu aller de l'avant, ils ont pu rétablir cette communion. Dès l'instant où on place notre foi en lui, Dieu nous pardonne, Jésus nous pardonne notre péché, il nous purifie et nous guérit. Voilà pourquoi c'est le divin médecin. Amen. Merci Seigneur. Merci parce que tu es ce divin médecin. Et nous voulons, Seigneur, nous voulons croire encore ce soir que tu es ce divin médecin pour chacun d'entre nous. Merci parce que pour nous qui te connaissons, tu as purifié nos cœurs. Par ton sang précieux qui a coulé, Seigneur, sur le bois de la croix, tu as purifié nos cœurs de tout péché. Seigneur, merci parce que nous pouvons marcher en communion avec toi. Merci parce que tu as rétabli cette communion avec toi. Tu as rétabli ce plan parfait que tu avais prévu pour l'homme. Tu as rétabli cette vie basée sur l'amour, Seigneur. Merci parce que tu nous as éloignés de cette vie de jugement basée sur le connaissance du bien et du mal, mais tu nous as rapprochés de toi, Seigneur. Et nous voulons te dire merci, nous voulons être reconnaissants. Je veux te prier pour ces personnes peut-être qui se rendent compte qu'elles ont dans leur corps ou dans leur vie un symptôme du péché, Seigneur, qui se rend compte que le péché est là effectivement et qu'il est en train petit à petit de ronger leur âme, Seigneur. Je te demande simplement de parler à leur cœur. Je te demande, Seigneur, que ton Saint-Esprit, que ta parole puisse sonder leur cœur au plus profond afin qu'elle puisse faire ressortir le remède, que tu es le remède, que tu es la guérison, que tu es la solution à leurs problèmes. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que c'est par tes meurtrissures
que nous sommes guéris. Nous voulons croire ce soir encore que nous sommes guéris par tes meurtrissures, par ton sacrifice à la croix. Tu as porté nos péchés afin qu'ils ne nous séparent plus de la présence de Dieu, afin que nous puissions vivre cette vie abondante, cette vie pleine d'espérance, cette vie de bonheur que tu nous as promis malgré les épreuves. Merci pour ces promesses, Seigneur. Je veux te demander d'agir encore ce soir. Je veux te demander de bénir également ces personnes qui sont touchées dans leur corps. Tu as dit dans ta parole que tu étais celui qui était venu guérir toute maladie et toute infirmité, alors que tu as annoncé également la parole. Ce soir, nous avons annoncé la parole. Nous avons prêché le royaume, Seigneur. Et nous demandons par ton Saint-Esprit que tu puisses guérir tous ceux qui sont dans une maladie, tous ceux qui ont un besoin particulier dans leur corps. Parce que tu es le divin médecin. Tu es le médecin de l'âme, mais tu es le médecin du corps également, Seigneur. Et nous voulons te dire merci pour toutes ces choses. À toi, ça toute la gloire éternelle. Amen. Amen.